Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
C'est le début d'une semaine sur l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. J'ai dit c'est le début, mais l'idée même de début est un contresens, un commencement, mais alors qu'y avait-il avant le commencement? Rien ne commence, à part ce qui s'achève, et rien ne s'achève hormis tout ce qui existe quand on le regarde de l'extérieur. Il y a deux façons de voir le monde. On peut le regarder sous l'angle de la production ou sous l'angle du produit, sous l'angle des causes et sous celui des effets, sous l'angle, dit Spinoza, de la nature naturante ou bien de la nature naturée, qui est à sa cause, ce qu'une solution est à sa continuité, ce que la mort est à la vie, ce que les feuilles, c'est-à-dire les feuilles mortes, sont à la sève de l'arbre. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'éthique de Spinoza, le plus grand livre de tout le temps. L'éthique de Spinoza, 5 mouvements, 5 parties réparties en mouvements sur 95 267 mots, 17 axiomes, 75 définitions, 1524 paragraphes et 259 propositions, sans compter les démonstrations, scoli, appendices et préfaces. Un ensemble qui va de la nature de Dieu à la liberté de l'homme en passant par l'esprit, les états d'âme et la servitude, des renvois incessants, des axiomes, des lemmes, des postulats, des attributs, des modes finis et ce Dieu-substance qui, pour tout dire, ne ressemble à rien puisqu'il se confond avec le tout. Voilà en gros ce dont nous allons vous parler toute la semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance et avec une joie infinie. Suivez-nous pas à pas, n'ayez pas peur de comprendre. Tout ce que nous vous dirons, vous le savez déjà. Bonjour Myriam Corrichi.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, de nouveau dans les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes philosophe et dramaturge, vous avez soutenu une thèse sur Spinoza et vous travaillez, vous faites des recherches actuellement en éthique contemporaine. C'est une joie, à double titre, de commencer avec vous cette lecture suivie de l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. D'abord parce que Spinoza, vous le connaissez sur le bout des doigts, ce qui veut dire que vous l'avez lu et qu'il vous a touché. Ensuite parce que nous sommes amis, vous et moi, et qu'à ce titre, nous formons ensemble ce que Spinoza appelle une notion commune, c'est-à-dire le mystère d'une convenance dont l'harmonie surmonte les différences. De fait, nous ne sommes pas d'accord sur Spinoza, même si nous sommes d'accord pour ne pas l'être. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. Ça, c'est le tout début de l'éthique, la première définition. Un abîme, en somme, un gouffre déjà.
Un gouffre dont le précipice se présente de manière un peu brutale, parce que on fera remarquer que l'éthique commence de manière donc abrupte, sans préface à cette première partie de l'éthique qui s'appelle de Dieu. Et elle commence, en effet, cette partie par une suite de définitions.
Juste un point, on a beaucoup glosé sur le fait que Spinoza était arrogant parce qu'il commençait par Dieu. Pour qui se prend celui qui commence par Dieu, en gros? Est-ce que cette critique a du sens? Est-ce qu'on peut dire de Spinoza qu'il manque d'humilité en commençant par Dieu?
Je pense que Spinoza se pose plus la question de la rigueur que de l'humilité. Il se pose plus la question de la vérité et des moyens d'atteindre à la vérité que du problème de ce que les philosophes
professionnels
penseront de lui. Mais cette observation qu'il commence donc l'éthique de manière abrupte, sans préface, générale ni particulière pour cette partie consacrée à Dieu, est importante parce que c'est comme si Spinoza donc nous plongeait, medias res, au milieu de la chose même, j'allais dire, Dieu.
Mais en fait, il serait arrogant si Dieu était le Dieu des chrétiens. Le Dieu dont il parle étant, j'allais dire, presque l'existence elle-même, il y a, en fait, en somme, il commence par ce qui est.
Il commence par ce qui est, mais pour être encore plus précis, il commence par, non pas Dieu, mais par la causalité. Donc il y a toutes les chances que cette partie, qui s'appelle de Dieu, va en fait nous permettre de comprendre un peu plus ce qu'il faut entendre par causalité dans un horizon qui est celui de la science mécanique du XVIIe siècle.
Spinoza est le promoteur de l'idée d'une causalité efficiente et non plus finale. C'est d'ailleurs sur ce point-là qu'il va terminer cette première partie de l'éthique, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, dont il faut dire peut-être, d'ailleurs à l'attention des auditeurs, que c'est peut-être le texte le plus facile à lire de l'éthique de Spinoza, en tout cas une excellente porte d'entrée. Spinoza distingue causalité finale et causalité efficiente. Ça n'est pas la même chose. Il faut préciser ces distinctions.
Alors, la tradition, à partir de ce qu'on a retenu d'Aristote, donc la tradition distingue quatre causes. Et Spinoza n'aurait retenu qu'un type de causalité, conformément donc au contexte de promotion scientifique des sciences physiques de l'époque, la causalité efficiente.
C'est-à-dire la simple juxtaposition, concaténation, cause-effet.
La connectivité entre la cause et l'effet. Bon, rappelons qu'il y a la cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale. Donc Spinoza disqualifierait les trois causes et garderait que l'efficiente. Or, Spinoza, donc la cause formelle, rappelons-le, c'est la cause par l'essence, ou disons que l'effet se rapporte à une essence de la chose. La chose serait aussi l'effet de sa propre essence. Or, il me semble qu'on retrouve un petit peu quand même dans le texte de Spinoza quelque chose qui est de l'ordre de la cause formelle, c'est-à-dire que Spinoza donc va construire un système de la nécessité très strict, en partie pour persuader, convaincre son lecteur que tout ne peut pas venir de n'importe quoi.
On va revenir sur la causalité finale et efficiente. La causalité finale, donc, c'est la représentation d'une fin, un au-delà qui ordonnerait l'action. On se donne à la façon dont les hommes peuvent se donner un but. La causalité efficiente, c'est la production de cette chose. Pour donner un exemple que Spinoza prend lui-même, causalité finale, c'est l'architecte de la maison. La causalité efficiente, c'est le maçon ou c'est l'ouvrier. On peut dire ça comme ça.
Oui.
Dieu est cause efficiente. Alors l'idée qu'il se fait de Dieu, c'est un Dieu non providentiel et du coup l'univers est tout entier ordonné selon le principe de causalité efficiente.
Oui. Avec une exclusion totale de la causalité finale. Disons que la causalité finale est une illusion que les hommes se font parce qu'ils ont conscience de leurs actions, donc ils croient agir en vue de fin et à cause de fin, et cette croyance masque les motivations réelles, qui sont en partie en fait inconscientes, qui les font agir.
C'est-à-dire en fait, dans la vie, on se donne des buts, et comme on prend nos désirs pour des réalités, on croit que le monde lui-même a des buts, ou des intentions.
Voilà, et donc ça c'est l'illusion fondamentale critique ici Spinoza, mais en outre, les hommes s'illusionnent sur leur propre motivation.
Alors, revenons-en à Dieu. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. J'ai dit revenons-en à Dieu, on ne sait pas encore c'est Dieu qu'il désigne par cause de soi, qu'il désignera également par substance. Dieu arrive à la sixième définition de la première partie de l'éthique. Mais revenons à d'abord cette première définition. Donc, par cause de soi, c'est ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est-à-dire ce dont, quand on le conçoit, on ne peut le concevoir qu'existant. Quelle différence y a-t-il entre ça et l'argument cartésien qu'on a déjà examiné dans les nouveaux chemins de la connaissance avec Élodie Cassan, dans la troisième méditation, dans laquelle Descartes dit « j'ai l'idée d'une perfection, cette perfection je ne la possède pas puisque je suis moi-même imparfait, cette perfection ne peut pas venir de moi, elle vient donc d'un être parfait, cet être, entre guillemets, existe nécessairement puisqu'il est parfait et que ne pas exister serait le signe d'une imperfection. » De sorte que Descartes dit « j'ai l'idée avec Dieu d'un être existant nécessairement, donc Dieu existe ». Qu'est-ce qui distingue ce que Descartes, l'argumentaire cartésien qui prouve l'existence de Dieu, du discours de Spinoza qui dit « par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence ». Est-ce que ça n'est pas tout simplement la même chose?
Alors, ça n'est pas la même chose. D'abord, il va falloir attendre la proposition 11 de la première partie de l'éthique pour avoir une démonstration de l'existence de Dieu, donc qui viendra donner à la définition 6 de la première partie, la définition de Dieu, un corrélat ou un idéa, c'est-à-dire quelque chose qui va venir concrétiser cette définition ou lui donner une réalité correspondante. Ça, c'est un premier point. Donc, on ne commence pas directement dans l'éthique par affirmer l'existence de Dieu, mais on commence par définir un certain nombre de notions. Tout se passe comme si Spinoza, en fait, définissait un lexique de manière très rigoureuse pour pouvoir parler de ce dont il veut parler et pour pouvoir parler aussi de ce dont les autres parlent, c'est-à-dire les cartésiens et les scolastiques et les théologiens. Parce que là, on a c'est comme s'il y avait trois interlocuteurs principaux, là, de l'éthique, en particulier s'agissant de ce thème, de Dieu. Donc il y a les philosophes d'un côté, les nouveaux philosophes, hein, Descartes et les empiristes, plutôt anglais, Bacon. Il y a la tradition philosophique d'un autre côté, les scolastiques. Donc là, eux font de la théologie philosophique et ont donné à livrer un certain nombre de notions à la philosophie que les philosophes utilisent, un peu malgré eux, et on voit bien que Spinoza se bat un peu avec ce vocabulaire hérité de la tradition. Donc les scolastiques et puis les théologiens, parce qu'il faut quand même distinguer les philosophes théologiens, enfin les philosophes de l'école, et les théologiens qui, eux, ont un intérêt tout autre à parler de Dieu, un intérêt pratique.
Mais revenons sur la définition elle-même. Ce qui ne peut se concevoir que comme existant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui ne peut se concevoir que comme existant ? Ce qui existe nécessairement, qu'est-ce que c'est ? Chez Spinoza. Est-ce qu'en somme, le Dieu dont il parle, ça n'est pas l'être lui-même, c'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui est ? Est-ce qu'en somme, Dieu, pour Spinoza, ça n'est pas, indépendamment de toute tradition d'ailleurs, ou de toute tradition philosophique, est-ce que le Dieu dont qu'il évoque, qu'il décrit, et dont il va prouver l'existence, n'est pas ce dont on peut avoir la connaissance la plus claire, au sens où Dieu, c'est la totalité de ce qui existe, et il n'y a aucune différence entre Dieu et ce qui existe ?
Alors, vous avez parfaitement raison. Simplement, Spinoza va prendre beaucoup de temps, quand même, tout le temps de la première partie, pour développer, découper, préciser tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de notions et de catégories mêlées. Et ces notions et catégories qui sont mêlées dans la manière dont on parle de Dieu usuellement, ou dans la théologie, ou dans la philosophie scolastique, et même dans la philosophie cartésienne, Spinoza prend le soin, par ces séries de définitions qui entament la première partie, qui commencent la première partie de l'éthique, par les distinguer. Donc il s'agit ici de procéder avec ordre, pour pouvoir concevoir clairement et distinctement ce qu'on va pouvoir désigner par le mot de Dieu. Donc cette définition 6, donc on va dire tout de suite que Spinoza ne commence pas avec Dieu, mais avec la causalité, la causa sui, la cause de soi. Et cette définition 6 est nominale pour le moment.
Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. En d'autres termes, tout ce qui est.
Tout ce qui est. Mais déjà, il va falloir prouver que tout ce qui est cause de soi.
C'est un univers qui va vous submerger en même temps que le bonheur, la richesse, l'inconcevable grandeur. Passez un moment dans ce livre, apprenez-y ce qui vous semble digne d'être appris par vous, mais surtout aimez-le. Cet amour vous sera rendu mille et mille fois, et quoi qu'il advienne de votre vie, il pénétrera le tissu de votre avenir comme l'un des fils les plus importants parmi les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. un livre de splendeurs et de profondeurs. Plus on le lit, et plus il semble qu'il contienne la totalité de la vie, du plus ténu de ses effluves jusqu'au goût fort et plein de ses fruits les plus lourds. Il n'est rien là qui n'ait été compris, saisi, vécu et reconnu dans l'écho tremblant du souvenir. Aucune expérience ne fut trop infime, et le moindre des événements s'y déploie tel un destin, lequel est lui-même comme un large et merveilleux tissu, dont chaque fil a été guidé par une main infiniment douce. Vous allez éprouver le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois et vous parcourrez ces innombrables surprises comme en un rêve inédit. Ce n'est pas Spinoza qui commente lui-même son propre travail, c'est Rilke qui parle de tout à fait autre chose, mais dans une citation qui, à mon avis, correspond assez près à l'expérience qu'on peut faire de l'éthique de Spinoza. Myriam Korichi est notre invitée aujourd'hui pour commenter la première partie de l'éthique, partir dans l'éthique avec Dieu, puisque c'est l'objet de la première partie. On a vu donc qu'il y avait donc deux, parmi l'ordre des définitions qui commençait le livre, définition 1, définition 6, cause de soi, définition de Dieu. On vient ensuite à la preuve de l'existence de Dieu, et puis il en vient également à cette idée sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un peu, qui est que Dieu est cause immanente et non transitive du monde. Ça, c'est la proposition 18. Qu'est-ce que ça signifie de dire que Dieu est cause immanente et non transitive du monde, Myriam Korichi?
C'est évidemment très très important parce que on a pu qualifier la philosophie de Spinoza de philosophie de l'immanence. Alors l'adjectif immanente, cause immanente se trouve, cette expression se trouve bien dans le texte de Spinoza. Alors textuellement, ça veut dire que tout ce que cause Dieu est en lui. Il n'y a rien à l'extérieur de lui.
En somme, Dieu n'est pas, ne transcende pas ce qu'il crée. Donc il ne crée pas, il n'y a pas de création.
Alors oui, d'abord ça veut dire que est exclu le concept de création dans le rapport, pour comprendre en tout cas, le rapport entre Dieu et la créature, comme on pourrait l'appeler, mais comme lui l'appelle, ou les modes finis. Enfin, les choses singulières, plutôt, il les appelle plutôt comme ça, les choses limitées, donc les choses qui ont une existence limitée. Donc, tout ce que produit Dieu, il le produit en lui-même. Et c'est ça que veut dire d'abord immanent. La causalité immanente de Dieu, ça veut dire produire en soi. Et non pas hors. Oui.
Et non pas hors de soi. Est-ce que ça n'est pas d'ailleurs une référence? Est-ce que finalement, l'intuition d'un Dieu qui est, le contemporain de ce qu'il produit, mais même plus que le contemporain, ce qu'il produit et Dieu, finalement, sont une seule et même chose. Cette intuition-là, est-ce qu'elle ne lui vient pas de l'Évangile selon saint Jean, qui dit « Dieu est en nous, nous sommes en Dieu ».
Oui.
En Dieu, nous nous mouvons. Enfin, est-ce que finalement, ça n'est pas de la Bible qu'il tient l'idée qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et l'homme? Dieu est le réel, pardon.
Disons que les rapports entre la philosophie de Spinoza et la Bible sont certains. Enfin, disons qu'il y aura sans doute pas une source d'inspiration, mais disons que il reconnaîtra volontiers que dans les livres des religions révélées, il y a quelques intuitions qui sont justes, mais qui sont confusément appréhendées ou comprises.
Il parle de ce que les Hébreux ont aperçu comme à travers un nuage.
Voilà.
En somme, la Bible dirait des choses justes, mais le chemin qui conduit relève de l'imagination.
Relève de l'imagination et par là peut faire fausse route, précisément, à l'esprit.
Dans la proposition 29 de la première partie, qu'on parcourt comme ça, au rythme qui convient d'ailleurs, puisque l'éthique se lit, il y a une infinité de chemins possibles, mais empruntons celui-là. Dans la proposition 29, il distingue la nature naturante et la nature naturée. Il dit ceci, « Par nature naturante, on doit entendre ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire Dieu en tant qu'on le considère comme cause libre. Par nature naturée, tout ce qui suit de la nécessité de la nature divine ou de chacun des attributs de Dieu. » Pour le dire autrement, est-ce que nature naturante et nature naturée, ça n'est pas la même chose, mais vu de deux façons différentes?
Alors, c'est la fameuse formule qui a été beaucoup commentée de Deus sive natura, Dieu ou la nature, avec cette équivalence évidemment problématique pour un certain nombre de raisons, notamment théologiques, évidemment, mais aussi philosophiques. Cette formule se trouve dans la préface de la quatrième partie, mais évidemment fait référence à tout le système d'explicitation du concept de Dieu. Enfin, qu'est-ce qu'il faut entendre par le concept de Dieu ? Alors, nature naturée, nature naturante, cette distinction, ces deux concepts techniques sont hérités du vocabulaire scolastique. Là, on retrouve cette contrainte de prendre en compte quand même comment les autres philosophes parlent de ce dont lui-même parle. Donc oui, c'est la même chose, mais cependant, alors là, on approche du problème proprement spinoziste. Nature naturée et nature naturante, c'est la même chose. Et cependant, il ne faut pas commencer par dire cela, parce que tout le problème, c'est de pouvoir dire que Dieu, c'est la nature, et qu'en même temps, Dieu est l'infinité des choses produites, mais finies, se distingue radicalement tant par l'essence que par l'existence. C'est le problème spinoziste, c'est-à-dire à la fois penser un rapport étroit entre Dieu et ce qu'il produit, et en même temps, il faut préserver cette vieille distinction entre la chose infinie, l'être infini, et l'être fini, ou l'être qui a une existence limitée, parce que... terminée par d'autres existences finies, elle
cette,
aussi.
Cette distinction, on peut en faire l'expérience le plus simplement du monde. Tout ce qu'on regarde est provisoire, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente est provisoire, et en même temps, il y a une façon de faire l'expérience de ce dont nous faisons l'expérience qui nous tourne vers l'éternité qui n'est pas l'immortalité, l'éternité qui est la nécessité qu'ont les choses d'être ce qu'elles sont à l'instant où elles le sont. Ainsi, on peut regarder le monde sous l'angle du provisoire et considérer qu'en somme c'est une malédiction que les choses s'achèvent. On peut aussi regarder ce qui existe comme une preuve et un signe de ce qu'elle a d'éternel en elle-même, ici et maintenant.
Alors on a peut-être là la raison pour laquelle Spinoza commence, non pas par Dieu, hein, enfin si, textuellement la partie s'appelle de Dieu, mais commence dans le concept par l'infini ou l'absolument infini. Parce que à commencer à réfléchir sur la nature des choses sous l'angle de la brièveté de la vie, pour le dire vite, ça nous fait manquer, en fait, tout ce que les choses de fini, de terminé, qui seront terminées un jour, mais qui, sur le moment, nous font manquer, en fait, tout ce qu'elles affirment de positif, leur positivité. D'ailleurs, c'est la seule chose qui existe. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle Spinoza commence par l'affirmation la plus grande qui soit, la plus absolue qui soit, parce qu'en fait, il faut pouvoir expliquer, et c'est ce qu'il a perçu, je pense, il va falloir pouvoir expliquer quelle est cette nécessité des choses, quelle est cette positivité des choses qu'il est donné à certains de percevoir et de sentir, disons. Évidemment, on peut voir les choses autrement, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les choses sont brèves, absurdes, sans consistance aucune, mais ça n'est définitivement pas le point de vue de Spinoza. Je pense que Spinoza, à l'intérieur de cette vie même, perçoit la positivité pleine des choses.
Prenons un exemple. Imaginons, c'est une femme enceinte qui se rend pour faire une échographie chez son échographe et qui entend les battements du cœur de son enfant. Le premier moment où une femme enceinte entend les battements du cœur de son enfant, c'est toujours très bouleversant. Ce que cet épisode peut avoir de bouleversant, ce que ce moment peut avoir de bouleversant, c'est aussi l'intuition qu'un cœur qui vient de se mettre à battre, qui bat à toute vitesse d'ailleurs, qui court. Ce cœur-là, on sait qu'à l'instant où il se met à battre, c'est qu'il va s'arrêter. De sorte qu'en entendant battre un cœur, on peut avoir le sentiment, la certitude que le don de la vie est une malédiction, puisque c'est également, c'est un cliché de le dire, promettre à la mort un être qui n'a rien demandé. Et donc on peut interpréter les battements du cœur comme la perspective de la mort. Dans le même temps, et donc comme un élément provisoire. Mais on peut aussi, et c'est très intéressant, puisque maintenant les instruments de mesure et d'écoute sont très pointus, on entend également les battements du cœur de la mère, en même temps que ceux de l'enfant. Et quand les deux battent ensemble, qui est une espèce de tango des deux battements de cœur, on s'aperçoit que le don de la vie n'est plus significatif ou synonyme du don de la mort, mais que tout simplement la vie ne s'arrête pas à la vie d'un individu, qu'il y a en somme une vie qui surmonte la perspective de la mort d'un individu. Et l'espèce d'émerveillement qui accompagne cette découverte, ce tango entre deux cœurs, peut être aussi une façon de regarder le même phénomène, mais sous un autre angle, non pas sous l'angle de son caractère provisoire, mais sous l'angle au contraire de l'éternité qui le caractérise.
C'est-à-dire qu'il y a deux manières, en fait, et c'est ça la force de la perspective spinoziste, c'est qu'il y a deux manières de considérer la brièveté de la vie. Soit on la considère de l'extérieur, comme si elle était déjà terminée alors même qu'elle n'est pas terminée, ce qui est une abstraction, et donc une projection de l'imagination. Donc soit on s'extrait de la vie, et on la regarde de l'extérieur, et on la considère donc terminée, brève, indigne, et on tombe dans la nostalgie d'une existence plus riche, plus essentielle, plus absolue, plus mystérieuse, enfin tout ce que l'imagination va pouvoir, tous les adjectifs que l'imagination va pouvoir fournir. Soit on reste dans la vie. Et on s'attache donc à ce qui existe, parce que, pardon, ça a l'air d'une tautologie, mais seulement ce qui existe, existe.
Oui, mais c'est une tautologie fondamentale, puisque le père de cette tautologie, c'est Parménide. C'est un penseur, on fait un petit détour dans l'histoire des idées, c'est important, Myriam Korishi. Ce qui existe, existe, ce qui n'existe pas, n'existe pas. Ça, c'est Parménide qui l'a dit. Et on en a fait, à ce titre, le père de la métaphysique. Au sens où il y aurait d'un côté ce qui existe véritablement, hein, l'être immuable, intangible, l'au-delà, en somme, une version primitive de l'au-delà, et puis de l'autre côté ce qui n'existe pas, c'est-à-dire ce qui est soumis au devenir, à la temporalité, au provisoire, à l'indignité finalement d'une mort promise. Mais on peut aussi interpréter Parménide différemment. En posant que ce qui existe existe et que ce qui n'existe pas, Parménide est également le père de toute philosophie de l'immanence, c'est-à-dire de toute pensée qui, comme Spinoza, se contente de s'attarder sur ce qui existe et non pas sur les chimères qu'on peut déployer par sentiment d'un manque ou par idées inadéquates. En somme, Parménide serait l'ancêtre de Spinoza plus que de Platon.
Oui, il y a une ligne, il y a un rapport. Mais pour revenir à Spinoza, plus on s'enfonce dans la lecture, plus on creuse sa lecture de la partie 1 de l'éthique, et plus on se rend compte qu'on avance dans la positivité absolue de la définition de ce qui existe. Ou pour le dire autrement, Spinoza exclut toute négativité de l'être, ou de la manière dont on doit parler de l'être. Disons que Spinoza construit une syntaxe et un lexique pour ne parler que de manière positive de ce qui est.
Parce que en parler de manière négative n'aurait aucun sens.
Parce que en parler de manière négative a un sens, une signification. Parce que l'imagination nous donne toutes sortes d'images confuses qui nous font penser et voir les choses de manière négative. Alors, il y a un sens à la négativité, mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de corrélat dans l'existence. Ce qui existe, existe.
Pour prendre un exemple, pour prendre un exemple dont on parlera demain d'ailleurs avec Julien Henry, c'est particulièrement dans la deuxième partie de l'éthique, l'erreur, par exemple, n'est rien de négatif, contrairement à Descartes, chez qui l'erreur est une forme du néant.
Oui.
Il n'y a rien de négatif dans l'erreur. En somme, quand on se trompe, c'est un début de connaissance. On commence à connaître. Si on croit que la Terre est plate, c'est un début de connaissance. L'illusion qui nous fait croire que la Terre est plate, ce que Spinoza appelle aussi le premier genre de connaissance, c'est un premier genre de connaissance.
C'est une affirmation.
C'est une affirmation.
Un type d'affirmation.
Alors c'est une idée inadéquate, c'est une idée partielle, mais ce n'est pas une idée radicalement négative qu'il faudrait abolir au motif qu'elle serait une figure du néant ou une façon qu'aurait le néant de nous contraindre à l'erreur.
Alors, oui, la question spinoziste, en réalité, n'est pas « est-ce que Dieu existe ?» ni non plus « est-ce qu'il y a de l'être ?» parce que c'est évident dès le début, c'est-à-dire que Spinoza fait appel au sens, au bon sens, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de son lecteur.
Il n'est pas douteux que ce qui existe, existe. C'est la grande différence entre Spinoza et Descartes, qui congédie l'existence de tout ce dont il n'est pas absolument certain. Soyons certains au moins d'une chose, c'est que les choses existent. Le cogito spinoziste, c'est pas de dire j'existe, c'est de dire tout existe.
En tout cas, Spinoza ne demande pas à son lecteur de mettre entre parenthèses son monde et sa manière de voir. En revanche, il demande à son lecteur, enfin il attend un lecteur, un type de lecteur particulier, qui est un lecteur qui vit et qui a conscience de vivre, voire même un peu plus, qui a une certaine connaissance de cette vie dans un univers causal. Spinoza s'adresse quand même à un lecteur déjà informé, qui sait faire la différence entre l'entendement et l'imagination, qui sait qu'il a un entendement qui est un outil pour connaître la vérité. Donc ce livre s'adresse quand même à un lecteur un peu averti, un peu rompu, en fait, aux pratiques de l'entendement et aux pratiques scientifiques et aux outils nouveaux à l'époque. Alors certainement donc pas au public le plus général de l'époque, mais un nombre de lecteurs choisis. D'ailleurs Spinoza, en 1675, son éthique est terminée.
Rappelons qu'il meurt en 77.
Il meurt en 77, donc il est à peu près... on peut savoir que son éthique est terminée. Il refuse, elle est prête pour la publication et il refusera de la publier parce qu'il se rend bien compte que le contexte est défavorable à la publication d'un tel ouvrage, c'est dire la conscience qu'il avait que son livre ne s'adressait pas à un public très large à l'époque. Mais certainement, les choses ont changé. Nous sommes nombreux aujourd'hui à savoir que nous vivons dans un univers causal. Et donc ce livre, certainement, s'adresse à un nombre bien plus important que ça n'était le cas il y a deux siècles.
En vérité, surtout quand on lit l'éthique, on s'aperçoit qu'à l'instant où on comprend ce qu'il y a dedans, c'est qu'on comprend qu'on est compris par lui. C'est ça qui est merveilleux. Lire l'éthique, c'est découvrir, non pas qu'on le comprend, mais découvrir qu'on est compris par ce que l'éthique décrit. Et que finalement, c'est un peu le livre dont le lecteur est le héros. C'est la première version du livre dont le lecteur est le héros. Lire l'éthique, c'est forcément s'y retrouver à un moment ou à un autre, puisque l'éthique s'intéressant à ce qui existe, et ce qui existe étant le lot en particulier du lecteur ponctuel de l'éthique, le lecteur ponctuel de l'éthique, ça vise toujours un moment qu'il est concerné par ce qui est en jeu. C'est tout le sens d'ailleurs de ce que Spinoza dit quand il dit que nous sommes des parties de l'entendement infini de Dieu. Myriam Korichi.
Alors oui, alors certainement ces lecteurs étaient peu nombreux à l'époque et maintenant, je pense, sont de plus en plus nombreux. Et alors, pour en revenir à la question proprement spinoziste, contrairement donc au... Est-ce qu'on pourrait penser, la question spinoziste n'est pas est-ce qu'il y a de l'être, est-ce que Dieu existe et comment le démontrer son existence, mais c'est plutôt, puisque je garde, pardon je parle à la place de Spinoza, puisque je garde le mot de Dieu, il va falloir que je justifie cela, pourquoi Spinoza en effet garde le mot de Dieu alors même qu'il en détache toute signification transcendante, toute signification énigmatique, dans le sens du mystère théologique, en tout cas. Donc pourquoi garde-t-il ce mot de Dieu, alors même qu'il le définit, donc, qu'il définit Dieu comme une substance absolument infinie, et que tout de suite après les définitions, la série d'axiomes définit ce que les commentateurs ont appelé le principe de l'intelligibilité intégrale du réel, donc il y a une équivalence stricte entre l'être et la connaissance de l'être. Je peux tout connaître dans les bornes de mon entendement, mais ces bornes ne sont que quantitatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un au-delà de la connaissance qui me serait inaccessible par nature. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est
quelque
chose...
Tout ce qui existe, existe, et tout ce qui existe peut faire l'objet d'une connaissance.
D'une connaissance. Mais ça, c'est déjà tout à fait... différent de ce que Descartes, déjà lui-même, affirme.
Oui, parce que pour Descartes, rappelons que pour Descartes, la source de l'erreur vient du décalage entre la volonté et l'entendement. L'entendement est limité, l'entendement humain est limité. La volonté humaine, elle, est infinie, elle est comparable d'ailleurs à la volonté divine. Il y a une analogie entre la volonté humaine et la volonté de Dieu chez Descartes, alors que pour Spinoza, les deux n'ont rien à voir parce qu'il n'y a pas de sens à attribuer justement une volonté à Dieu. Et puis surtout, ce qui existe, existe et par conséquent n'est pas mystérieux. Puisque Dieu est tout entier, tout ce qui existe, rien n'est plus facile à connaître que Dieu, et tout ce qui relève de l'existence relève par là même du connaissable. Deux conséquences à cela, Myriam Korichi. La première, c'est, on va y venir, c'est quel est ce monde finalement qu'on ne peut plus regarder d'en haut. Ce monde où il n'y a plus de position de surplomb, d'où on puisse le regarder, le contempler et lui trouver un sens. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, et je voudrais qu'on commence par elle, c'est le rapport que Dieu entretient, si j'ose dire, avec sa propre liberté et la définition que Spinoza donne de la liberté. Il dit dans la proposition 17, « Dieu agit par les seules lois de sa nature, de la nature, pardon, c'est la même chose, et sans être contraint par personne. » En somme, la liberté, c'est l'absence de contraintes, mais ça n'est pas pour autant le libre arbitre.
Non, l'un des enjeux principaux de l'éthique, c'est de nier la cohérence même de l'idée de libre arbitre. Et là, l'opposition entre Spinoza et Descartes est frontale, est irréconciliable. Spinoza est irréconciliable avec l'idée qu'on puisse affirmer la liberté d'un arbitre. Ça n'a pas de sens pour lui de définir la liberté par la volonté.
C'est la raison pour laquelle il s'en prend à tous ceux qui font de Dieu un roi, à tous ceux qui se représentent Dieu comme... Il dit ceci dans le Scoli de la proposition 17. D'autres pensent que ce qui donne à Dieu le caractère de cause libre, c'est qu'il peut faire aller en croire que les choses qui découlent de sa nature, c'est-à-dire qui sont en son pouvoir, n'arrivent pas ou bien ne soient pas produites par lui. En somme, il continue, cela revient à dire que Dieu peut faire que de la nature du triangle, il ne résulte pas que ces trois angles égalent deux droits, ou que d'une cause donnée, il ne s'ensuive aucun effet, ce qui est absurde.
Ce qui est absurde. Ce qui est donc très remarquable, c'est que pour Spinoza, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Dieu, ou ce qu'il appelle Dieu, n'est absolument pas comparable à un homme surpuissant.
Voilà, un tyran ou un roi. C'est la représentation d'un Dieu personnel, en somme.
Voilà. Donc, évidemment, qui est visé dans ce Scoli, c'est toutes les imageries des théologies, des religions révélées. Même si c'est métaphorique, il y a quand même cette référence, ce lien anthropomorphique entre Dieu et l'homme, que refuse absolument Spinoza.
Il faut bien comprendre ceci, hein, c'est que plus Dieu est personnel, plus Dieu est transcendant, plus Dieu est dans l'au-delà, plus il ressemble à l'homme. Plus il est construit sur un modèle humain.
Ou disons que plus il est laissé la possibilité à l'homme de le concevoir ainsi. Vous parliez de la liberté, donc la liberté en ce sens est niée à Dieu. Et cependant c'est un des enjeux fondamentaux de l'éthique que d'affirmer un certain type de liberté. Et ce qui est remarquable, c'est que Spinoza va travailler à identifier ou à ne plus faire que l'opposition soit systématique entre nécessité et liberté. Et en revanche, l'opposition va plutôt jouer entre liberté et contrainte. Là, c'est important, mais ça n'est pas parce que l'on agit de manière nécessaire et nécessité qu'on agit de manière contrainte.
En somme, si je ne peux pas sauter du sixième étage de mon immeuble et voler dans les airs, ça n'est pas une contrainte.
Et ça n'est pas...
Ça n'est une contrainte que pour celui qui... imaginons par exemple que tous les humains aient des ailes dans le dos, le seul à ne pas en avoir tiendrait pour une contrainte le fait de ne pas voler. Mais comme nous n'avons ni vous ni moi d'ailes dans le dos, on ne tiendra pas comme une contrainte le fait de ne pas pouvoir se soustraire aux lois de la pesanteur.
Oui, et ça n'est pas une privation donc de liberté.
Voilà, et ça n'est donc pas une privation de liberté.
Et que la liberté ne peut se concevoir et ne s'affirmer que en fonction de la nature qui nous est donnée. Et ça n'a pas de sens, comme dit Spinoza, de concevoir une liberté autre que celle-là. Ça n'a juste pas de sens logique. Et qu'à creuser, on se rend compte qu'on tombe sur une contradiction qui est de type le cercle est carré. Derrière cette critique des conceptions théologiques et philosophico-scolastiques et aussi cartésienne, il y a en fait une distinction fondamentale que Spinoza opère et qui va être opératoire dans sa philosophie, qui est la distinction entre pouvoir et puissance. entre potestas et potentia, ce qui n'est pas du tout la même chose. La puissance se définit par l'essence absolument infinie et productive de Dieu, alors que le pouvoir...
C'est le pouvoir qu'a un roi sur ses sujets.
C'est un concept politico-juridique. Alors j'en reviens à la question, on se rapproche de la question qui est spinoziste, véritablement spinoziste, de quoi s'agit-il dans ce livre ? Il s'agit de se demander en quoi l'existence de Dieu est véritablement divine. C'est ça la question. Je garde le mot de Dieu. Pourquoi ?
Pour le dire autrement, hein, pour préciser les termes de la question, bien des commentateurs de Spinoza ont dit que Dieu n'était qu'une commodité de langage, en somme, pour lui. Une autre façon de dire la nature, les lois universelles de la nature, ou bien l'existence, ou bien la vie, peu importe. Mais que Dieu n'était qu'un le prête-nom, en somme, de tout ce qui existe. On peut pour autant soutenir qu'il y a, chez Spinoza, une idée du divin.
Alors oui, parce qu'il garde le mot sans doute pas seulement par commodité, encore qu'il y a certainement une conception, je dirais, déflationniste de Dieu. C'est certain, quand on lit le Scoli de la proposition 17, il s'agit de cela, hein, de véritablement réduire le concept de Dieu, d'éliminer tout mystère, toute comparaison possible avec un dieu, avec un roi plutôt, donc d'éliminer la gloire ou l'existence auréolée d'un dieu vivant dans l'imagination des
d'un
hommes.
D'un dieu qui nous ressemble.
D'un dieu qui nous ressemble, donc c'est donc déflationniste aussi pour nous. C'est-à-dire que... Mais si le divin ou la catégorie du divin est conservée, c'est non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des choses finies. Parce que si le début de l'éthique, si l'éthique commence par l'infini, c'est pour comprendre qu'est-ce qui, d'infini, passe dans le fini.
Plus nous comprenons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Ça, c'est, on arrive
donc, c'est
là au terme de l'éthique, c'est un renversement. Est-ce que ça ne tient pas au fait que si Dieu est identique à la nature, c'est qu'il n'y a qu'un seul monde ? Que ce monde, par définition, c'est le monde de ce qui existe. Il n'y a pas de monde parallèle. Et pour cause, on ne peut pas être au-delà et exister en même temps. C'est une contradiction. De deux choses l'une, soit on est au-delà, auquel cas on est au-delà, c'est très bien, soit on existe. Mais si on existe, on ne peut pas être au-delà puisqu'on existe. Et dans ce monde-là, qui est donc tout ce qui existe, qui n'a pas de complément en miroir, qui permette de le regarder, ce monde-là, dans son âpreté, dans sa difficulté, dans sa dureté, ne nous ménage pas la possibilité de le regarder d'en haut, encore une fois. Et donc, ce que nous avons sous les yeux est aussi explicable, puisqu'il n'y a plus de mystère, qu'énigmatique en tant qu'il existe. Le mystère même de l'existence, enfin l'énigme même de l'existence, je distingue à dessein énigme et mystère ici. Ce que je veux dire, c'est que l'existence est une énigme, quand bien même elle cesserait d'être mystérieuse. Le fait que tout soit explicable ne rend pas moins étrange l'existence de ce qui existe.
Alors,
Myriam Korishi.
Est-ce que vous accepteriez...
C'est là qu'on retrouve Dieu, c'est à mon avis. Mais,
oui.
Allez-y.
Alors est-ce que vous accepteriez que ce que vous qualifiez d'étrange ou d'énigmatique soit... moi, je le qualifierais de charme.
Parfait. Appelez ça comme vous voulez, mais étrange a le mérite de conserver l'idée d'étrangeté. C'est-à-dire un monde qui est identique à Dieu, donc un Dieu qui n'est plus transcendant, est un Dieu qui n'est plus humain, c'est un Dieu qui n'a plus figure humaine. Par conséquent, le monde qui est Dieu est un monde dont nous faisons partie de Dieu, ce monde-là n'ayant plus rien de commun avec nous, n'étant plus fait pour nous faire plaisir, c'est un monde étrange au sens étymologique, c'est un monde qui nous est étranger.
C'est un monde, pourtant, oui, il nous est étranger parce qu'il est absolument infini.
Parce qu'on lui appartient.
Mais en revanche, parce que nous lui appartenons, il nous est moins étrange. C'est-à-dire que nous vivons pleinement dedans. Et nous faisons partie pleinement et nous contribuons pleinement à la positivité du monde et à sa productivité.
On s'achemine vers la fin de cette émission, Myriam Korishi, et ce serait mentir par omission que de ne pas évoquer peut-être le plus spinoziste des écrivains, non ? Qui est le plus spinoziste des écrivains ? C'est Albert Camus, en l'occurrence. Que fait Camus dans Les Noces, par exemple ? Il regarde le monde Il le trouve étrange, il le trouve merveilleux, il le trouve étonnant, mais il ne cesse de théoriser le silence du monde, le fait que le monde ne lui réponde pas, le fait que le monde ne soit pas là pour lui apporter la réponse aux questions qui sont celles de l'homme, questions du sens de la vie, de la providence, questions de pourquoi je suis là, etc. etc. Est-ce qu'en somme, l'expérience que fait Camus, ça n'est pas une expérience typiquement spinoziste qui est de consentir à un monde qui ne nous répond pas ?
Alors, il me semble que Camus, la vision de Camus est plutôt double et qu'il alterne entre une vision immanentiste, spinoziste, jouissant de la chose telle qu'elle se donne. Ça me paraît assez clair, la fin de l'étranger va dans ce sens-là. Il alterne entre cette joie brute du monde, cette jouissance brute du monde et... une vision sans doute plus pascalienne. Il me semble qu'il juxtapose en fait les deux, de sorte que si Albert Camus ne serait pas peut-être la meilleure porte d'entrée pour Spinoza, dans le sens où alors il faudrait lire Spinoza et pourquoi pas, et Pascal de concert, ou alternativement. Parce que peut-être que les deux s'affrontent, les deux sont des penseurs de l'infini, Spinoza et Pascal, mais ils n'ont résolument pas la même vision ou le même ressenti par rapport à cette affirmation Pascal, de l'infini.
Pascal, penseur de la misère de l'homme sans Dieu, Spinoza, penseur de la joie de l'homme en Dieu.
En Dieu, nécessairement en Dieu.
Mais parce que l'idée qu'ils se font de Dieu, peut-être, n'est pas la même. Un dernier point. Est-ce qu'il n'y a pas... On a vu à quel point Spinoza donc, s'en prenait la représentation anthropomorphique d'un Dieu à figure humaine, d'un Dieu providentiel. Et qu'en somme, son Dieu n'a rien à voir avec cela, puisqu'il est tout ce qui existe, il se confond avec ce qu'il crée, donc il ne crée plus rien, il s'identifie à ce qui est. Bon, on a vu tout ça. En même temps, comment t'expliquer que Spinoza se sente plus proche du Dieu de Descartes, c'est-à-dire d'un Dieu qui peut faire que 2 et 2 fassent 5, d'un Dieu parfaitement arbitraire, parfaitement souverain, une espèce de super tyran, ou une volonté totalement frivole. Comment se fait-il que son Dieu, qui lui est identique à tout ce qui existe, et qui d'une certaine façon n'a pas le choix, ce Dieu-là, le Dieu de Spinoza, aux yeux de Spinoza, s'entend mieux avec un Dieu qui serait parfaitement soustrait à toute loi mathématique, qu'à un Dieu qui... étant transcendant, obéirait quand même aux lois de la mathématique.
Spinoza, certainement, est un cartésien qui radicalise le cartésianisme. C'est une lecture qu'on peut faire. Disons qu'il y a certainement en germe un spinozisme dans le cartésianisme. En tout cas, que Spinoza s'est fait fort de développer jusqu'au bout. Spinoza dit bien qu'il préfère... la conception d'un Dieu qui agirait par indifférence de la volonté, mais parce que ce Dieu cartésien, il n'est pas nommé comme, qualifié comme tel, mais il y a la référence à Descartes derrière, mais parce que ce Dieu cartésien est avant tout immuable. Et qu'au fond, la nécessité des décrets spinozistes, du Dieu spinoziste, est équivalente à... la volonté indifférente, parce qu'elle est indifférente, d'un dieu cartésien. En revanche, là, il s'éloigne beaucoup plus, donc, et il le dit explicitement, d'un modèle de dieu qui se référerait, comme de l'extérieur, à l'idée de bien. Ça, c'est tout à fait étranger à Spinoza, et c'est pour ça qu'il dit préférer un dieu cartésien, enfin un dieu à la volonté indifférente, mais parce que elle est indifférente.
Le point commun, ben pour le résumer, parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais le point commun de Spinoza et de Descartes, c'est qu'ils affranchissent Dieu de la nécessité d'être bon. Le problème n'est plus là.
Le problème n'est plus là. Le problème, c'est la puissance et la productivité infinie qui définit l'univers.
Merci Myriam Corrichi, on est un peu en retard. Je rappelle que vous êtes agrégée de philo, vous êtes dramaturge. Vous avez soutenu votre thèse sur Spinoza, vous faites des recherches en éthique contemporaine et c'est de la première partie de l'éthique de Spinoza que l'on vient de parler. Demain, je recevrai Julie Henry que nos auditeurs assidus ou acharnés ont pu déjà entendre récemment parler de Descartes. Julie Henry viendra vous parler de la deuxième partie de l'éthique, c'est-à-dire de l'esprit, c'est-à-dire du corps. Vous pouvez podcaster, chers auditeurs, comme on dit ces émissions, toute la semaine sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Je vous jure que le podcast fonctionne. Je le dis à l'attention de ceux qui nous écrivent et qui se plaignent à bon droit de quelques erreurs électroniques. Ça marche, allez-y. À la technique aujourd'hui, Sébastien Labarre, à la réalisation François Connac, assistant Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Laetitia Cordonnier, Tristan Grenacia et Jennifer Murzo, dont je salue l'arrivée dans notre équipe. France Culture, il est 17h50. Tout de suite Albert Jacquard.